rendez-vous de la francophonie, on parle de tradition. Tradition familiale, orale et culinaire avec des invités de marque. Rien de moins. Aujourd'hui, dans le podcast Rendez-vous autour du feu, on rencontre Michel Lambert, qui se spécialise dans l'histoire de la cuisine. On lui doit plusieurs livres, dont « Histoire de la cuisine familiale du Québec », sorti en 2009 et qui retrace les origines des recettes et des pratiques culinaires à leur tout début jusqu'à aujourd'hui. Bonjour!
Bonjour!
Alors, pour les rendez-vous de la francophonie, on parle de tradition. Et quand on parle de tradition, le niveau culinaire est très présent, que ce soit du côté canadien, mais aussi du côté mondial, finalement. Et vous êtes l'expert en la matière qui pourra nous raconter un peu c'est quoi, justement, la tradition culinaire. Donc, j'y vais vraiment large, mais au niveau d'aujourd'hui, ça a été inspiré par le passé et justement de comment est partie la cuisine au Canada. Je sais que ça peut être vraiment très large, beaucoup de choses, mais mettons qu'on peut résumer, ça ressemblerait à quoi le début?
Bon, en tant que tel, c'est sûr que la cuisine est tributaire de la culture des peuples qui habitent un territoire. Donc, au Canada, on peut dire qu'il y avait trois, quatre grandes familles autochtones. Mm-hmm. Et ces familles-là avaient leur spécialité culinaire qui venait de leurs origines et des contacts que ces tribus-là avaient eu avec d'autres ethnies. Alors, c'est sûr qu'à partir du moment où les Blancs sont arrivés, où les Français sont arrivés et se sont installés au Canada, il y a eu des contacts, puis il y a eu, des comptes rendus de ce que les Autochtones mangeaient. C'est les missionnaires qui nous ont raconté ça, ce qui fait que aujourd'hui, on dispose d'informations qui sont intéressantes, là, puis qui étaient racontées, si tu veux, aux Européens, parce que les Jésuites envoyaient chaque année une lettre à leurs supérieurs, qui leurs supérieurs publiaient ça en France, puis il y avait des lecteurs très assidus, si vous voulez. C'est un petit peu comme aujourd'hui, l'équivalent d'Internet, on va s'informer partout de ce qui se passe dans le monde. Mais alors, c'était la même chose à l'époque. Les Français étaient très friands de ces récits-là. Donc, ça, c'est la première source d'information, ces textes-là. Puis les autres informations sont plus récentes, nous viennent des anthropologues, puis surtout des archéologues qui ont fouillé les endroits où ont vécu ces peuples-là. Puis maintenant, on a des techniques là d'analyse, même de l'ADN, si tu veux. On fouille dans la terre, dans les dépotoirs, par exemple, que ces gens-là avaient près de leurs habitations. Mm-hmm. Puis on est capable de savoir qu'est-ce qu'ils mangeaient, dans quelle quantité. Même l'ostéothèque de Montréal, par exemple, l'Université de Montréal, a trouvé plein d'informations à cet égard. Puis ça complète, évidemment, l'information que les Jésuites nous ont donnée dans leur relation.
Comment que ça... J'ai de la misère à trouver... J'ai tellement de questions, là, si vous saviez. J'ai tellement de questions là-dessus. Mais comment que ça a influencé? C'est sûr qu'on est parti d'une base à une certaine époque, mais comment que ça peut... On peut dire que concrètement, aujourd'hui, on a encore des influences de la cuisine d'autrefois?
Oh mon Dieu! On ne s'en rend pas compte parce qu'on ne connaît pas, malheureusement, notre histoire. Puis moi, c'était ça ma passion, si tu veux, depuis très longtemps, là, depuis les années 80 où je fouille ardemment, si tu veux, tous les textes. Puis j'ai fait une collection à peu près de 35 000 recettes, ce qui fait que j'ai pu arriver à me faire un point de vue. Là. Comment aujourd'hui on est, dans le fond, tributaire de nos racines, hein? Bon, mais comme on les connaît pas, on sait pas le lien qu'il y a avec ça. Mm-hmm. Grosso modo, je te dirais que la cuisine actuelle, elle est le résultat fondamentalement, la cuisine canadienne ou québécoise, plus précisément, puisqu'on est francophone, elle est tributaire de notre passé. Ce qui fait que les aliments qu'on aime, ce sont ceux que nos ancêtres européens aimaient, de même que ceux de nos ancêtres autochtones aussi. Je vous donne, pour être bien concret, des exemples. Par exemple, toutes les viandes qu'on mange sont des viandes d'élevage, d'une part, que les Européens ont apportées. Et ça remonte au moins à 5000 ans, parce que ce qui est intéressant de savoir, c'est que les Européens, quand ils sont nés ici, eux autres aussi avaient des racines très, très lointaines. Pour aller plus loin là-dedans, je dirais les ancêtres les plus anciens des Français, ce sont des Anatoliens, des gens qui venaient du nord de la Turquie, qu'on appelait à l'époque l'Anatolie. Puis c'est eux qui ont apporté l'agriculture en France et l'élevage. Quand on parle d'agriculture, on parle par exemple des céréales comme le blé, l'orge, l'avoine, et de même que l'élevage, entre autres, du bœuf, du porc et de la volaille en tant que telle. Et je dirais que, et du mouton, j'ai oublié le mouton aussi, c'est devenu comme la base fondamentale de la cuisine européenne, que l'agriculture des céréales, des légumes et des et l'élevage des quatre animaux dont je viens de parler. Ça, donc, ça remonte à 5000 ans en France. Puis ensuite, sont arrivés d'autres peuples, comme les Celtes. On a beaucoup entendu parler des Celtes plutôt sous le terme de Gaulois. Parce que c'est les Romains qui les appelaient des Gaulois. Puis le mot Gaulois, ça vient du mot latin gallium, qui veut dire poulet.
Ah, ben bon.
C'est intéressant que les Français, on les appelait dans le fond des poulets.
Ben oui.
Parce qu'ils adoraient le poulet. Les Celtes ou les Gaulois aimaient tellement la volaille qu'ils mettaient, si tu veux, des coqs sur leurs bâtiments, sur leurs maisons, là, qu'ils sculptaient en métal. Puis, c'est pour ça que les Romains, quand ils les voyaient, bon, ils les identifiaient, ils disaient les poulets, les Gaulois, ça veut dire les poulets.
Ah!
Puis c'est intéressant parce que quand ils allaient faire des randonnées à la chasse ou qu'ils allaient à la guerre, leur repas principal, leur repas, je dirais, le plus important, c'était de manger des œufs.
Okay.
Parce que dans l'œuf, pour eux autres, on retrouvait l'essence de la vie. Symboliquement, si tu veux, c'était l'essentiel de la vie. C'est vrai que l'œuf, hein, c'est le début de la vie. Mm-hmm. Et il voyait là-dedans une protéine, pas végétale, mais animale de base. Puis ça a eu beaucoup d'importance, les œufs, dans la culture française. Puis nous, évidemment, au Québec, on a hérité de ça aussi. Parce que quand les premiers Français se sont installés dans la colonie, le gouverneur, pour les aider, leur donnait un couple d'animaux, un couple de volailles, puis qui leur permettait d'avoir des œufs, dans le fond, après quelques temps. On sait que ça prend un coq pour faire des œufs aussi. Donc, voilà, c'est comme ça que, entre autres, le poulet, les œufs ont eu de l'importance. Mais ce que j'ajouterais aussi, ce qui est intéressant quand on va plus loin dans cette étude-là de l'Europe, là, c'est que c'est relié beaucoup, je dirais, au climat. Puis aujourd'hui, alors qu'on réfléchit beaucoup à l'importance du climat, ben, on oublie que dans l'histoire, je dirais que les grandes fêtes annuelles sont liées aux événements climatiques, dans le fond.
Ouais.
Au solstice, par exemple, la fête de Pâques, qui est une fête religieuse aussi, c'est comme la christianisation d'une fête païenne, entre guillemets, là, qui existait auparavant, qui était le solstice de l'été qui approchait. Comme Noël, le premier de l'an, c'est le solstice de l'hiver. Donc, c'était les deux principaux événements climatiques de l'année. Et on en a fait des fêtes, puis on a fait plein de cérémonies autour de ça. Puis on a mangé, évidemment, des choses en relation avec ces événements-là.
Mm-hmm.
Puis là, j'arrive où on vient de passer le temps des fêtes. Là. C'est intéressant de savoir que par exemple, pourquoi au Québec on mange beaucoup d'oiseaux, de dinde, par exemple, autrefois on mangeait de l'oie, du canard, même du pigeon. Puis ça, on l'oublie, là, mais on était des grands amateurs de pigeons aussi en Nouvelle-France, au temps de la Nouvelle-France. C'est parce que quand arrivaient les grands froids et l'hiver, ben, on pouvait pas entretenir ces animaux-là dans des bâtiments parce que ça coûte cher bâtir des granges, des étables. Donc, on les tuait avant, puis ils pouvaient se conserver par le gel à cause du froid. Donc, ça permettait d'avoir des oiseaux, de la viande, si tu veux, pendant tout l'hiver. Puis on faisait la même chose avec le porc parce qu'on sait que le porc est très prolifique. Une truie peut avoir 12 petits cochons, de sorte que ça fait beaucoup de viande. Puis là, ça permettait, on en tuait avant Noël. Ce qui fait que, je dirais, l'essentiel des repas des fêtes, autrefois, c'était du porc. On cuisinait tout du porc, puis des oiseaux, entre autres, même la dinde actuelle, là, c'est un oiseau. Et évidemment, ça fait partie de nos mœurs à l'heure actuelle. Excepté que, à l'origine, au temps de la Nouvelle-France, c'était un oiseau comme les autres, je dirais. C'était pas plus important que le poulet, ou parce qu'on mettait toutes les sortes d'oiseaux sur la table. La famille était très nombreuse, puis on pouvait pas mettre un seul poulet, fait qu'on mettait tout ce qu'on avait de volaille, là. On mettait ça sur la tête, on le faisait rôtir dans l'âtre, donc ça grillait, c'était croustillant, puis c'était bon. Puis, avec des légumes d'hiver, on mangeait ça. Mm-hmm. La culture française aimait beaucoup accompagner ces choses de salade. Donc, les salades de choux, des carottes râpées, ça, c'était ce qu'accompagnait. Puis, ou des purées de pois, parce qu'on les pois aussi se conservaient séchés, donc on pouvait en avoir tout l'hiver, des pois verts ou des pois jaunes. Donc, on les faisait cuire longtemps avec des grillades de lard salé de par-dessus pour engraisser la purée. Pour servir ces purées de pois avec les oiseaux, puis des salades de choux et carottes. C'est très précis ce que je vous dis, non, mais c'est exactement typique là, du temps de la Nouvelle-France.
Ce qui est spécial, pareil, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on a gardées en un sens traditionnellement, comme vous mentionnez, bon, pour les fêtes, c'est la période qu'on va voir la dinde, le porc aussi. Nous, notre vision aujourd'hui, c'est « Ah, c'est la tradition », mais ça remonte à tellement loin pour d'autres raisons. Tu sais, comme vous disiez, la volaille, tu fais pas la volaille pour fêter Noël puis la farcir. C'était vraiment pour une question économie et survie. Donc, c'est assez fascinant de voir comment que ça évolue avec le temps. Je pense que avec une conversation avec vous, juste ça, puis même à pouvoir parler plus longtemps, je pense qu'il y a bien des gens qui remettraient en question leur simple toast du matin puis diraient « Oh mon Dieu, mais il y a tant d'années, ça part de là, c'est tellement fascinant. » Puis je veux vous dire un gros merci. Si on pouvait, je pense que je pourrais passer des heures à vous écouter parce que c'est super intéressant. Mais un gros merci donc, Michel Lambert. Moi, en ce moment, j'ai juste le goût de continuer, de poursuivre puis de tout apprendre, qu'est-ce que je mange puis d'où que ça vient.
Je vous remercie beaucoup. J'ai eu d'autres informations que j'ai données dans les derniers livres que j'ai écrits, entre autres, qui s'appelle « L'érable et la perdrix ». C'est un livre qui vient de sortir aux éditions Cardinal. Ceux qui veulent en savoir plus, je donne beaucoup de choses là-dedans aussi, avec Elisabeth Cardin, qui est la co-auteure.
Bien, absolument. Donc, j'invite les gens à se le procurer, parce que si déjà ce que vous venez d'entendre, ça vous allume une lumière, bien, vous pourrez poursuivre justement avec vos écrits. Bien, un gros merci encore une fois.
Au plaisir.
Célébrez les rendez-vous de la francophonie en visitant le site rvf.ca pour toutes les activités, les entrevues et plus encore. Bon rendez-vous!